Madame Retailleau, la ministre Carpette de l'enseignement supérieur, ministre Soumission, ministre Paillasson, a félicité Sciences Po. Aucune sanction ne sera prise contre ceux qui ont fait de Sciences Po l'annexe de la France insoumise. Ils ont empêché une étudiante juive d'entrer dans un amphi. Ils crient « Israël assassin ». Ils empêchent la majorité des étudiants de travailler. Peu importe, ils ont gagné. La direction cède, tétanisée. Et le gouvernement valide, paralysé. L'accord de la honte, a dit hier François-Xavier Bellamy. Oui, Madame Retailleau, elle nous fait honte. Honte à ce que devrait être un gouvernement digne de ce nom et un ministre à la hauteur de sa fonction. Nous serons intraitables, nous ne laisserons rien passer, disent-ils à longueur du discours. Toutes ces phrases n'ont pas de lendemain. Gabriel Attal était allé à Sciences Po il y a quelques jours. Où est-il ce matin, notre Premier ministre qui bande les muscles et demeure aux abonnés absents depuis 3 jours. Ceux qui dénonçaient une entreprise de com avaient raison. Oui, monsieur Attal, de la com et rien d'autre, du flanc, du vent, parole et parole. Je suis triste ce matin, triste du spectacle qu'offre le feuilleton Sciences Po, triste et affligé, plus encore de son dénouement. Il est 9h01. Marine Sabourin est avec nous.
9h, 9h30, l'heure des pros, sur CNews et Europe 1.
Ce drame à Châteauroux, le jeune Mathis, 15 ans, tué à coups de couteau samedi en fin de journée. Le suspect est un Afghan du même âge. Il a été placé en garde à vue avec sa mère. Ce mineur a déjà été interpellé 2 fois, à chaque fois pour des vols avec violence. Mais il n'a jamais été placé en détention provisoire. Écoutez l'émotion des habitants de Châteauroux, recueillis par Bande Bagaille.
C'est une catastrophe. Ça devient n'importe quoi. Là, c'est plus possible.
Eh ben, moi, je suis complètement chamboulée. D'avoir appris ça, j'en ai pas dormi de la nuit quasiment, là je suis vraiment pas bien.
Moi je trouve ça dramatique parce que j'ai un fils de 23 ans qui est sur Châteauroux et malheureusement ça peut arriver à n'importe qui quoi.
Des policiers envoyés en renfort à Givors, près de Lyon. Des bandes de jeunes ont semé le chaos dans la ville samedi soir où 2 voitures de police ont été incendiées. Il pourrait s'agir de représailles après le placement en garde à vue de 4 jeunes mineurs qui avaient agressé un autre jeune. Ces individus sont toujours en garde à vue ce matin. Et puis à Sciences Po, des syndicats de gauche appellent à poursuivre la mobilisation. La direction avait pourtant annoncé un retour au calme vendredi après avoir renoncé à toute sanction disciplinaire contre les manifestants pro-palestiniens. La direction cède face à une minorité violente d'Emmanuel Valls. Il était invité de Sonia Mabrouk, on l'écoute.
J'appelle ça de la lâcheté, j'appelle ça une reddition face à l'islamo-gauchisme et j'appelle ça de la soumission parce que cela rappelle en effet le livre de Michel Houellebecq sur un roman mais qui anticipait ce que pouvait dire la soumission face à l'islamisme. C'est un Munich de la pensée.
C'est à vous, Pascal, pour l'heure des pros.
Merci, et c'est Manuel Valls qui le dit. La séquence Sciences Po est un marqueur dans l'opinion publique. Et la réaction de ce gouvernement paillasson fait vraiment sens. Noémie Alioua, vous êtes journaliste et vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Elisabeth Lévy est avec nous, bien sûr. Merci à Audrey Berthaud d'être avec nous. Vous étiez dans la rue Saint-Guillaume l'autre jour et ces images ont été fortement marquées, évidemment. Je remarque d'ailleurs que sur les autres chaînes de télévision, quand une journaliste de CNews est agressée ou est prise à partie, il y a assez peu de réactions. Philippe Guibert est avec nous, Nathan Devers, Vincent Herbouette. On commence par quoi ? On commence peut-être par ce que disait François-Xavier Bellamy hier sur Sciences Po, parce que c'est vrai que l'antisémitisme décomplexé dans les universités françaises et l'absence de réaction, parce que ce qui est sidérant, c'est pas ces 200 activistes, ce qui est sidérant, c'est le gouvernement, c'est Madame Retailleau, c'est ces gens-là.
Et la direction de Sciences Po.
La direction de Sciences Po aussi, vous avez raison.
La négociation, quand même.
Mais vous avez raison. Mais le poisson pourrit toujours par la tête.
Mais vous avez raison. Je veux dire, c'est le pas de vague au plus haut sommet de l'État.
C'est ça qui est sidérant. Oui. Donc voyons ce que disait François-Xavier Bellamy.
Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes, et y compris d'ailleurs contre des journalistes de CNews.
Mais comment être crédible? Comment Gabriel Attal peut-il être crédible?
Surtout que votre expression de gouvernement paillasson pourrait s'appliquer aussi aux contrôleurs aériens, aux cheminots qui... Si vous voulez, c'est... même si ce n'est pas la même thématique, on voit un gouvernement qui recule sur tous les fronts. Vincent n'est pas d'accord, je suis curieuse de savoir pourquoi, mais moi, quand même, qu'on négocie avec 60 gugus.
C'est la philosophie intrinsèque, c'est Sciences Po, quoi. Moi, je veux dire, la première chose, je trouve que Bellamy a raison, parce que 200 millions d'euros, c'est le budget annuel à peu près de la scolarité, ce que coûte la scolarité à Sciences Po. Et les étudiants ne payent que 20% de la somme. C'est-à-dire que ce sont... Alors, il y a les fondations privées, il y a les anciens élèves, etc. Mais en fait, 80%, l'essentiel de l'argent,
c'est public.
C'est vous, c'est les ploucs. C'est les Français moyens, c'est tous ceux qui n'ont pas fait Sciences Po qui payent cette petite coterie qui tient la rue et
Vincent, c'est pas ça, le sujet.
Qui ne tient absolument pas. Ah, moi, je trouve que c'est quand même
c'est
un premier problème.
C'est 200 personnes.
Il y a un décalage,
Vincent,
entre cette école.
Vincent,
qui est une...
écoutez, c'est oui. 200 personnes.
Oui.
C'est ça le sujet.
Non, okay.
Il y a 15 000 étudiants,
mais
c'est 200 personnes.
Mais où sont les autres, mon cher ami?
Ah bah c'est le principe de la majorité silencieuse.
Donc il y a quand même une responsabilité collective.
Non, oui.
Celle de l'école, celle de la direction de l'école, celle des autres étudiants. Il y a une responsabilité collective. Je suis navré.
Non.
Mais si, monsieur.
Mais non, parce que la majorité silencieuse. Il y a une responsabilité du gouvernement.
Ah oui, mais ça, on est tous d'accord.
Mais c'est ça l'essentiel.
La dérive, elle date de Descoings.
L'essentiel.
C'est la mec de wokisme aujourd'hui.
Si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, quoi, ministre de l'Enseignement supérieur, vous suspendez les cours, vous virez tout le monde et vous repartez à zéro. C'est ça que tu attends. Voilà, t'as 200 personnes qui mettent à genoux ce pays. Alors, on est ce matin avec Noémie Alioua. Et alors, vous étiez, si j'ai bien compris, avec les étudiants, mais vous êtes fait passer pour quelqu'un qui n'étudiait pas, simplement pour écouter ce qui se disait. C'est bien ça.
Surtout, j'ai essayé de ne pas montrer que j'étais journaliste, alors je me suis un petit peu grimée, j'ai mis un bandana et une étiquette de pro-palestinienne, parce que je voulais vraiment être libre pour pouvoir observer, pour pouvoir témoigner ensuite de ce que j'avais vu. Moi qui ai couvert plusieurs guerres au Moyen-Orient, si vous voulez, ça m'intéressait de savoir comment la jeunesse française, européenne, occidentale...
Là, on vous voit, hein, c'est la photo, là, voilà, vous êtes grimé pour pouvoir...
Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui... C'est comment, cette jeunesse occidentale en arrivait à devenir, si vous voulez, complètement instrumentalisée par les islamistes radicaux. Vous avez vu qu'hier soir, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a publié un tweet avec des images de toutes les révoltes pro-palestiniennes qui ont lieu dans le monde entier. Ça veut dire que ces images-là, ce que font ces étudiants-là, même s'il s'agit d'une minorité numérique absolue, est utilisé aujourd'hui par les plus grands islamistes et par les théocraties dans le monde. Et ça, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'un épiphénomène, ce qu'on peut considérer comme un épiphénomène, ça a des répercussions dans le monde entier. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de découvrir ce que je dirais une sorte de Ramallah au cœur de Paris, avec des slogans extrêmement radicaux, Israël assassin, génocide, etc. Donc vraiment... une radicalité extrême dans les discours, et puis des kéfiers palestiniens partout, avec une jeunesse qui est française. Et là, vraiment, pour moi, qui ai couvert des choses au Moyen-Orient, ça me paraît complètement fou, cette histoire, de se dire que des gens qu'on pourrait qualifier d'éduqués, qui seraient une certaine élite, eh bien, sont aujourd'hui complètement soumis à cette idéologie islamiste, sous prétexte d'humanisme, sous prétexte d'être pour, et ça, on peut l'entendre, pour les Palestiniens, parce qu'on peut, bien sûr, être sensible à la souffrance des Palestiniens, mais ils ne se rendent pas compte que leur émotion est complètement utilisée. Parce qu'ils n'ont pas la même émotion pour les Syriens, ils n'ont pas la même émotion pour les Yéménites, ils n'ont pas la même émotion pour beaucoup d'autres.
C'est pas le peuple palestinien qu'ils défendent, c'est le Hamas.
Voilà,
s'ils défendaient le peuple palestinien, ils pourraient défendre deux États.
Tout à fait.
Ils passent leur temps à dire qu'ils veulent la destruire. Enfin, ils le disent pas comme ça, ils disent de la mer au Jourdain, ils passent leur temps à dire.
Oui, exactement.
C'est ça qui me semble.
Ils l'ont dit, ce slogan. D'ailleurs, Rima Hassan, qui est venue, elle a dansé dessus. Je veux dire, c'est extrêmement radical. Il s'agit de jeter 6 millions d'Israéliens juifs dans la Méditerranée. C'est ça ce que ça veut dire, ce slogan. Et donc, c'est vrai, c'est complètement... c'est absurde.
Je vous répète, j'en veux moins aux activistes...
qu'à la direction.
Qu'à la direction et qu'au gouvernement.
Oui,
c'est ça. C'est ma colère, entre guillemets, elle est là. eux, ils sont dans leur rôle. Émeric Caron, il est dans son rôle. On en parlera tout à l'heure avec Audrey Berthaud. Il est dans son rôle d'activiste.
Bon.
Mais c'est, je le répète, c'est 200 personnes. C'est 200
oui,
personnes.
Mais vous savez que c'est les minorités radicales qui mènent le monde.
Mais bien sûr.
Parce que justement, la loi, la majorité est silencieuse. Donc c'est ces minorités-là, il faut.
Mais alors, la majorité, c'est compliqué de la faire bouger, la majorité
absolument
silencieuse. Mais en revanche, un gouvernement, il peut bouger.
Mais il y a les profs.
Il peut changer. Et je pensais vraiment Gabriel Attal, je pensais qu'il bougerait. Je pensais que quand il était allé à Sciences Po, j'espérais, vous voyez, je suis naïf en fait.
Non, non, mais vous avez
en fait, c'est que de la com, c'est
vous
que
vous
du flan, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
Mais voilà,
ils sont incapables, ce sont des incapables dans l'action. Incapables dans l'action. C'est la parlotte, le blabla.
Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'agissent pas.
Parce qu'ils ont peur.
Mais oui. Peur de quoi, Pascal?
Eh ben,
ils ont peur.
De Télérama,
c'est tout.
Voilà.
Ils ont peur. Ils ont
Télérama,
la trouille.
Parce que les CRS, oui, ils ont la trouille. Ils attendaient un ordre.
Ils ont la trouille. Le trouillomètre à zéro.
Oui, oui. Oui.
Moi, je pense ils ont la trouille.
Je n'arrive pas à comprendre.
Mais c'est que
leur,
ça. Ce n'est
leur
que
attitude.
Ça. Et parce qu'effectivement, je pense qu'ils adhèrent pas. Mais ils ont la trouille.
Oh non, ils adhèrent pas. Évidemment qu'ils adhèrent pas. Mais avoir la trouille de 200 étudiants.
Oui.
Moi, je pense qu'ils ont la trouille que Sciences Po s'effondre. Voilà. J'essaye de trouver une explication. C'est-à-dire qu'il y a une telle crise.
Vous avez vu qu'il y a des financements
de la direction
qui ont déjà été retirés.
Oui, absolument.
Monsieur
il y a une telle
un
crise de la direction de Sciences Po depuis 4-5 ans que je pense que leur seule crainte, la seule explication vaguement rationnelle à cette absence totale de réaction, c'est la crainte pour Sciences Po.
Bon. Hervouette se trompe, me dit un intervenant qui nous écoute. Hervouette se trompe. Justement, le sujet, c'est le coût de la scolarité instituée par Descoings, 11 000 euros par an, qui a faussé la sélection par le mérite et a conduit au retour de ce que Mendès France appelait les fils d'archevêque, une sélection par la fortune et pas au mérite. D'où une sélection d'étudiants, tous issus de la bourgeoisie. Et pour compenser, Descoings avait instituer les procédures spéciales d'admission pour les jeunes de banlieue, autre catastrophe, rupture de l'égalité républicaine, et ainsi de suite.
Ah bah, ben voilà. Oui, il a transformé complètement l'école sur un axe progressiste, déterminé.
Mais que le gouvernement
entre...
Il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus d'oral,
c'est
discriminatoire.
Mais c'est pour ça que là, vous avez une occasion formidable de dire, on les vire tous.
Tous.
Ah ben, non, mais tous ceux qui, effectivement, sanctions disciplinaires, vous virez toute la direction, vous gardez les profs visiblement parce que les profs sont de qualité ou en tout cas, mais vous partez à zéro. Ça serait de la gueule. Mais effectivement, ils en sont incapables. Nathan Devers qui a pas parlé.
Il y a à mon avis quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Les étudiants ont parfaitement le droit de se mobiliser pour exprimer leur soutien à la population de Gaza, pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne, leur colère vis-à-vis d'Israël. Très bien. Leurs revendications, quand on les regarde, n'avaient rien à voir. Il y a une revendication sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'ils demandaient la coupure des partenariats avec les universités israéliennes. Et ça, c'est la revendication, je pense, la plus parlante. Parce que dans toute démocratie, et en l'occurrence en Israël, les universités israéliennes sont un lieu de liberté d'opinion, mais en l'occurrence plutôt de contre-pouvoir, à une époque où tous les universitaires israéliens, pour la plupart, s'opposent au gouvernement. Donc si vous voulez faire ça, c'est pas être dans la critique politique, c'est être dans une forme de haine ontologique vis-à-vis de tout ce qui existe en Israël, opposition comprise.
Mais je vous le répète, j'entends ce que vous dites, mais pour moi ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement. C'est ça, pour moi, l'essentiel. Enfin, Gabriel Attal avait nommé un administrateur, M. Vichra a été viré,
il a
demandé
à démissionner.
C'est ça, pour moi, l'essentiel.
Vous
avez une France qui se couche devant 200 activistes. C'est ça, l'essentiel.
Oui, Pascal, quand même.
Alors, Audrey Berthaud,
là. Juste, toutes les universités occidentales aujourd'hui, et finalement, c'est aussi, ça nous vient aussi d'Amérique.
Oui.
Je vous recommande le papier de Jeremy Stubbs sur Causeur. Il parle de l'esprit du Hamas qui souffle aujourd'hui de Harvard, de MIT, etc. Mais, là où je vous rejoins moi complètement, c'est que la patronne de Harvard, enfin Madame Gay, je me rappelle plus son prénom, la patronne de Harvard a dû démissionner. La patronne de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill, a dû démissionner. Celle du MIT, je crois, il y a que des femmes d'ailleurs. Celle du MIT, ça n'a pas. Donc si vous voulez, à Columbia, elle reste pour l'instant, ce qui est scandaleux. Mais il y a quand même, si vous voulez, dans tout le monde occidental. Vous avez raison, il y a les gouvernements et il y a aussi quand même ces étudiants, cette jeunesse qui est quand même la jeunesse.
Arrêtez avec cette jeunesse, ces 200.
Que font les autres?
Vous comprenez pas, Pascal. Toutes les facs dans le monde entier, ça marche en Occident, en tout cas aux États-Unis, et on a importé ça. C'est le triomphe de l'idéologie des cours. On a importé ça donc au cœur du quartier latin, dans cette fac de première classe qui est désormais Sciences Po. Oui, première classe. Les beaux quartiers, ils sont bien traités. Hein. On a importé cette espèce de démon mental. Mais ailleurs, aux États-Unis, les patrons d'université sont virés, alors que là, ils sont félicités.
Et voilà. Mais c'est ça l'essentiel. Je suis d'accord avec vous. Alors Audrey Berthaud est avec nous. Vous la connaissez, Audrey, elle était sur le terrain. Et je la félicite d'ailleurs, parce que vous êtes courageuse d'être sur le terrain. Et vous avez été attaquée, malmenée, prise à partie. On va voir d'abord la séquence lorsque vous interrogiez. Vous interrogez Émeric Caron, qui acceptait de parler à CNews. Ouais. D'ailleurs, quand vous allez vers lui, il accepte.
Oui, il accepte de répondre à ma question tout de suite. D'accord. Il voit le micro, il voit très bien pour qui il répond et il le fait.
Donc c'est important de le dire parce que effectivement, il est dans une logique d'échange avec la presse en l'espèce, et il va être bousculé par un activiste qui vient vers vous. Et on va voir cette séquence.
Laissez-vous dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. BFM pareil, mais partez, partez en fait. Je sais pas pourquoi vous acceptez ces lignes, sérieusement, mais partez. Vous avez pas de violence, pas de violence, pas de violence.
Bon, Audrey, on va citer le JRI avec qui vous étiez.
Oui, Raphaël Lazrey, bien sûr.
Bon, on va souligner qu'Émeric Caron dit pas de violence, pas de violence à deux reprises, et que c'est important de le dire.
Oui, bien sûr.
Bien évidemment. Et je voulais que vous témoigniez de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez quitté la rue?
Donc, on est en effet en train d'interviewer Émeric Caron. Là, il y a ce jeune homme qu'on voit sur la vidéo qui vient interrompre l'interview parce qu'apparemment, je pense que ça lui posait problème puisqu'il dit « Pourquoi vous leur répondez ?» Moi, d'ailleurs, je dis, il a le droit, en fait. C'est son droit de répondre à des journalistes, heureusement. Et donc là, il y a beaucoup de violence verbale, on le voit. Il donne des coups à la caméra, ce qui, d'ailleurs, puisque Raphaël... Donc porte la caméra sur l'épaule, la caméra donne des coups sur sa tête, donc il n'a pas été évidemment il n'a pas pris de coups directement, mais indirectement, ce qui est aussi important de souligner. Et puis voilà, en fait, il va entraîner tout un groupe de personnes. Il va y avoir 10, 15, 20 personnes qui vont nous encercler. Et c'est là où, en effet, la scène devient un petit peu compliquée parce qu'on se sent en danger réellement et on se dit bah, il faut partir. Donc on le voit sur la vidéo, moi je m'écarte, Raphaël me suit et après c'est la suite de la vidéo qu'on ne voit pas, mais on s'exécute en fait puisqu'on est clairement menacé, on nous dit de partir, on le fait, on se met sur le côté et cet individu va revenir en disant pourquoi vous êtes ici, vraiment avec un regard noir. D'ailleurs, on m'entend, je dis, mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que je peux comprendre que, encore une fois,
je ne sais pas si une plainte va être déposée contre ce jeune homme, d'ailleurs, et la plainte, elle ne pourrait être déposée que par Canal Plus ou CNews. Je ne sais pas si une décision a été prise en ce sens-là, mais manifestement, il y a un acte qui... en dehors de la légalité. Je pense qu'il y a là quelque chose qui mériterait, pour le moins, que ce jeune homme puisse s'expliquer sur son comportement.
C'est ça. C'est ça, parce que c'était de la violence...
C'est un étudiant de Sciences Po ?
Ça, on n'en a aucune idée, malheureusement. Donc voilà. Après, en plus, on voit, il cache son visage, il veut vraiment pas... Ouvrir un parapluie comme font les Black Blocs de
temps en
temps.
J'imagine, en plus, que ces élèves sont rarement les plus brillants de l'amphi. C'est aussi une manière pour eux d'exister parce que faut le dire. J'ai un peu d'expérience en ce domaine. Je les ai croisés. C'est rarement les plus brillants de l'amphi. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est d'ailleurs un problème parce qu'ils empêchent parfois les autres de travailler.
Donc,
Bonjour.
Non, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai reçu un message d'un étudiant de Sciences Po qui a apporté son soutien, voilà, qui m'a dit vraiment, nous on vous soutient et attention, voilà, de pas faire d'amalgame parce que
bien sûr.
Il faut pas que tout le monde pense que à Sciences Po ils sont tous comme ça. Non, c'est pas le cas.
Bon,
ça, c'est important. Faut dire un mot sur les profs. les professeurs.
Je voulais qu'on écoute peut-être Émeric Caron qui a réagi sur France Info, je crois. Alors, ce n'est pas bon. Alors, c'est un tweet d'Émeric Caron. Me dit, vous êtes vraiment vous et vos amis de CNews la lie du journalisme, a-t-il dit. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. Ça, c'est un tweet de Monsieur Caron. Donc effectivement, alors vous êtes vous vraiment vous et vos amis de CNews de la Ligue du journalisme. Je remercie Monsieur Caron de nous donner des leçons de journalisme. J'ai envie de dire, on sait quand même ce qu'il a fait dans ce métier et il était tellement brillant qu'il a été obligé d'en sortir. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. Je le remercie également de dire ça. Ce n'est pas ce sentiment. D'ailleurs, si Monsieur Caron veut venir sur ce plateau, il est le bienvenu, si j'ose dire. À Gaza et plus généralement parce que CNews est une chaîne de fachos. Merci encore de traiter, vous êtes un fasciste, Nathan Devers, vous êtes un fasciste, Philippe Guibert, et moi avec. Je comprends parfaitement cette réaction de la foule étudiante. C'est curieux parce qu'il n'avait pas du tout cette attitude-là.
Non, c'est ça.
Alors, Gauthier Lebret est là. Gauthier Lebret veut dire quelque chose, manifestement. Gauthier, si vous me faites des grands gestes, ne me faites pas des grands gestes, alors venez au micro, venez dire quelque chose si vous voulez dire quelque chose. Bah oui, puisque vous êtes en train de me parler. Alors, parlez au micro de Nathan Devers.
Je voulais juste vous montrer le portable pour que vous... Il faut bien comprendre que Émeric Caron, depuis que cette séquence a lieu, il légitime l'action de la foule.
D'accord.
Il légitime l'action de la foule et il reprend les insultes de la foule contre CNews.
Oui, mais c'est parce qu'il disait, son attitude n'était pas la même en direct. Mais
après, il a fait pas de violence en tendant son bras. Mais en effet, depuis.
Oui, mais il vous répondait en même temps. Il vous répondait.
C'est oui, mais surtout, il intervient plus après. C'est
d'accord.
Fait.
Bon, alors c'est voilà. Pardonnez-moi, nous sommes en direct, comme vous le savez, mais je vous voyais notre plateau est ce matin un peu trop petit. Alors terminons avec le tweet de Monsieur. Le tweet de Monsieur Caron que j'ai pas fini de lire. Je boycotte votre chaîne d'extrême droite depuis longtemps, mais il vous parlait. Donc c'est assez étrange.
Après, est-ce qu'il a
et je milite pour qu'elle disparaisse de la TNT gratuite.
C'est incroyable.
Mais c'est. Écoutez.
Non mais attendez, voilà. Il appelle quand même, si vous voulez, à ce qu'on mette au chômage des centaines de personnes. Mais c'est pas possible.
De Monsieur Caron. Que les gens fassent une enquête et interrogent les gens avec qui il a travaillé dans ce métier. Comment il a travaillé dans ce métier,
oui,
etc. Bah si, voilà, point.
La question, pardonnez-moi, la question n'est pas vraiment là.
Les leçons de journalisme de
bien, quelles que soient les rivalités, quelles que soient les détestations entre journalistes, et elles sont nombreuses,
oui.
Sur le terrain, en général, il y a un minimum de solidarité qui s'exerce, notamment en reportage, quand on est face à une adversité, une agressivité, soit de la foule, soit de la police, soit... Il y a toujours... Et notamment sur les terrains de guerre, où alors là c'est absolument impérieux, il y a toujours cette solidarité qui joue, ce corporatisme qui joue. C'est vraiment minable, alors qu'une consoeur vient de se faire insulter, de venir jouer les moukabarates en exigeant la censure de la chaîne et en dénonçant ces news fachos. C'est vraiment minable de la part d'un élu de la République et d'un ancien confrère.
Je
vraiment
vais terminer
minable.
Avec Audrey, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur cette période. D'abord, je c'est pas facile pour vous d'être sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain aujourd'hui. C'est plus facile pour moi d'être en plateau. Je pense aux équipes de CNews, effectivement, qui peuvent être prises à partie. Je pense à nos amis JRI, je pense à vous, etc. Et effectivement, la violence et la radicalité de la séquence que nous vivons vous met parfois en danger. Je ne parle pas de l'espace médiatique qui nous met une cible sur le dos matin, midi et soir.
Mais
parce qu'on a la conséquence de tout ce qu'on voit dans certaines émissions.
C'était pas la première fois, et en effet, je trouve ça malheureux de pas pouvoir faire juste son métier, quoi, parce qu'on est venu poser des questions, on vient en plus couvrir cet événement, CNews vient couvrir cet événement, et on voit qu'on n'est vraiment pas les bienvenus, ça c'est compliqué.
Merci Audrey Berthaud. On est évidemment un peu en retard, il est 9h23, Thomas Hill est avec nous, je vais le saluer pour Europe 1, qui va prendre la suite sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce qu'il est avec
Absolument.
Nous, Thomas Hill ?
Bonjour Pascal.
Je ne vous vois pas, Thomas.
Eh bien, je suis là, je suis bien là.
Vous êtes un peu comme dans Don Camillo, on vous entend, la voix du Seigneur. Ah ! On vous
voit. Me donnez un peu trop d'importance, Pascal.
Voilà, non, mais c'est... mes références cinématographiques sont toujours jeunes, comme
oui,
vous savez.
J'ai remandaté.
Bonne journée à vous, bonne émission, Pascal. Bien évidemment. Merci beaucoup.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et dans quelques minutes, c'est Culture Média qui commence avec le médecin légiste Philippe Charlier qui se demande dans un doc absolument passionnant de quoi est vraiment mort Napoléon Bonaparte. Et puis ensuite, c'est la grande Nicoletta qui nous rejoindra tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour. Vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote exactement en juin prochain ?
Eh bien pour élire les 81 représentants français qui vont siéger pendant les 5 prochaines années au Parlement européen. C'est une élection à un tour et chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son score.
Et pourquoi c'est une élection importante ?
Parce que les députés européens travaillent à améliorer notre quotidien à travers des projets cofinancés ou en votant des lois comme celle sur la réduction des produits issus de filières qui contribuent à la déforestation.
Très bien. Et on vote quand alors ?
Le 9 juin, ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement ? Juré ?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr. On en parle.
Reconnaître les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque est essentiel pour améliorer sa détection et sa prise en charge. On en parle avec le professeur Thibaut Dami, cardiologue.
La Poste. Index, mot masculin qui désigne le deuxième doigt de la main, doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un ou à son courrier lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47€. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Europe 1.
Et vous êtes bien sur Europe 1, la matinée se poursuit dans un instant avec Thomas Hill et toute l'équipe de Culture Média jusqu'à 11h. À tout de suite.
Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque ? Non ? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel ? Prise de poids rapide ? Pieds et chevilles gonflés ? Fatigue excessive ? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est... » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Dès mardi chez Intermarché, pour l'achat de 2 packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Dans un instant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir ?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe, dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même, ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse demain dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 9h30 bientôt sur Europe 1, juste avant Culture Média, le journal permanent avec Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Gérard Depardieu convoqué par la police ce matin pour un possible placement en garde à vue selon BFM. L'acteur doit être entendu sur deux plaintes pour agression sexuelle lors de tournages en 2014 et 2021. L'acteur conteste formellement les faits. La garde à vue se poursuit à Châteauroux pour une mère et son fils de 15 ans. D'origine afghane, ils sont tous les deux suspectés d'être liés à l'attaque au couteau qui a coûté la vie à Matisse, un jeune de 15 ans. Samedi soir, une enquête pour homicide est ouverte. En Auvergne-Rhône-Alpes, la ligne Lyon-Grigny fermée jusqu'à mardi soir au moins après les inondations. Un mois de pluie en quelques heures à peine ce week-end. Un glissement de terrain a provoqué le déraillement d'un TER sans faire de blessés. La ligne Lyon-Pardieu-Saint-Étienne, elle, reste ouverte. Leurs yeux sont maintenant rivés sur la Ligue des Champions. Le PSG a son 12e titre de champion de France en poche après la défaite hier soir de Monaco, 3-2 contre Lyon. Prochain rendez-vous pour Paris, les demi-finales aller contre Dortmund. C'est mercredi soir à 21h. Tout de suite, Culture Média sur Europe 1.
Merci beaucoup Nina et prochain point sur l'actualité à 10h sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média.
9h30, 11h.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. On est reparti pour une magnifique semaine tous ensemble avec les excellents Anissa Haddadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Bonjour à tous les trois. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Julien ?
Eh bien, vous savez qu'on sait qui va remplacer Jarry à la tête de tout le monde veut prendre sa place.
Vous savez.
Suspense.
Ouais, on a appris ça. Ceux qui ont lu Le Parisien le savent aussi, ouais. A priori.
Et Jean-Luc ?
On va parler de ce qu'on peut. Non, on va parler de cuisine.
Ah, cuisine.
Mais pas
et de cauchemar aussi ou pas ?
Plutôt de cauchemar.
Très bien. Et puis alors aujourd'hui, on va rouvrir un cold case vraiment très très froid. Un dossier qui a 200 ans. Comment est vraiment mort Napoléon ? Nous sommes avec le grand médecin légiste et archéologue Philippe Charlier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous menez des enquêtes historiques absolument passionnantes sur France 5. Ça s'appelle l'histoire au scalpel. On en parle dans un instant. Bien, tenez Philippe, vous qui êtes un fin limier, est-ce que vous saurez retrouver le nom de notre invité musical juste avec ses paroles ? Pour moi, la musique, oui, la musique, je le sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié. Qui a chanté cette chanson, Philippe?
De l'amour, de l'amitié.
Nicoletta, bien joué, effectivement. Nicoletta sera avec nous
à deux salles de ambiance
tout à l'heure. Exactement. Et vous le voyez, vous avez des platines aussi à vos côtés, puisqu'il y a le groupe Bon Entendeur qui nous rejoindra. Vous savez qu'ils reprennent du Nicoletta maintenant avec Fio Maravilla. On va découvrir ça en live tout à l'heure. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. On est ensemble jusqu'à 11h.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Philippe Charlier. Et je crois que vous êtes très heureux, Jean-Luc. Vous connaissez bien.
Bien, c'est beaucoup dire, mais on se connaît, oui. Ouais. Et j'aime beaucoup Philippe Charlier. J'ai eu la chance de le côtoyer. Et c'est un homme passionnant et délicieux. Ah. Par contre, petit reproche, si je peux me permettre, c'est sans doute le médecin le plus nul que je connaisse. Tous ses patients sont morts. Je dis ça, je dis rien.
Ah oui, c'est peut-être parce qu'il est médecin légiste.
Oh, s'il vous plaît, jouez pas sur les mots. Parce que c'est quoi un médecin légiste ? C'est surtout un médecin qui veut pas être emmerdé sur Doctolib. Hein. Et puis, je connais Philippe. Il aime tellement disséquer les gens que je suis sûr que de temps en temps, il a du mal à attendre que le corps soit à la bonne température. C'est pas moi qui le dis.
Pendant mon internat, mes patients étaient déjà morts, même si deux de mes patients sont décédés très très peu de temps avant l'autopsie. L'un des deux a peut-être été mis dans le frigidaire encore vivant.
Oh non !
Et il dit ça calmement. Philippe, quand vous ouvrez quelqu'un, si la personne vous dit « bah vas-y, fais comme chez toi », c'est sans doute pour vous signaler que vous avez été un peu impatient. Hein. Alors, certains pourraient se demander à quoi sert d'autopsier des gens décédés depuis longtemps. Eh ben, c'est essentiel, car ça permet de répondre à de grandes questions.
Un moment assez particulier, je dirais particulier, c'est quand j'ai été face à Hitler à Moscou. On est maintenant, à l'issue de nos travaux, sûr et certain que Hitler est bien mort.
Ah bah, sacrée révélation. Merci Philippe.
Oh, la citation coupe.
Elle était bonne la vodka, Moscou. Bon, j'avoue, j'ai coupé la suite.
Petit.
Je trouvais ça plus drôle comme ça. L'année dernière, je partageais le micro avec Philippe dans Historiquement Vôtre, et ouais. C'est très instructif de côtoyer des gens aussi érudits. Tous les jours, tu apprends quelque chose.
Pour moi, la disruption, c'est l'anti-académisme. Non pas destructeur, mais l'innovation par l'originalité. Mmh. C'est ça pour moi la disruption.
Ouais. Mais tellement d'accord. Bon, j'ai toujours pas compris ce qu'il disait, mais j'adore.
Je n'ai pas compris ce que je disais.
On est d'accord, mais quand je pense que je suis passé de ça, Philippe Charlier à Anissa, qui chaque jour, quand je rentre dans le studio, me dit eh, « Vas-y, tire un doigt ». On fait pas des métiers faciles quand même.
Ça a beaucoup changé, m'a dit Jean-Luc. Et alors, pour votre session de rattrapage, vous avez trouvé le programme parfait ce matin.
Évidemment. Comme notre invité médecin légiste, je me suis demandé quel serait le programme parfait après avoir découpé des corps. Et donc, j'ai choisi Cauchemar en cuisine. Voilà. Déjà, avant toute chose, je voudrais féliciter la programmation de M6. Mmh. Le mercredi, ils te mettent Top Chef qui te donne envie de devenir cuisinier. Et le vendredi, ils te mettent Cauchemar en cuisine.
Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout.
Voilà. Vous savez maintenant que quand ils font Objectif Top Chef, ça peut aussi être Objectif Dépression. Parce que dès le générique de l'émission, on te met dans l'humeur du programme.
J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Franchement, je suis perdu.
Ça me rentre sur moi, mes parents, comme ça.
Oh. C'est sympa, hein. Moi, quand j'ai vu le gamin pleurer, j'ai eu envie de créer une canotte litchi pour lui acheter des nouveaux parents. Cauchemar en cuisine. Non, mais franchement, il y a quoi comme vendredi soir plus triste, à part aller faire un barbecue chez un vegan? Bon, vendredi, Philippe Etchebest était de sortie dans le Nord, chez les ch'tis, donc pour une cuisine locale.
Mozzarella, sauce barbecue maison, d'eau de cabillaud au pesto. Ouais, pour l'instant, il y a trop rien de local, hein. Viande de bœuf marinée dans l'ail et soja, servie avec une sauce thaï.
Bah oui, mais si ça se trouve, la sauce thaï vient du nord de la Thaïlande. C'est donc des ch'tis thaï. C'est un resto qui fait le tour des ch'tis de tous les pays. Mais tout à coup, un cri se fait entendre dans le resto. Et là, tu sens que Philippe Etchebest a passé plus de temps en cuisine que dans une crèche.
Pour moi, c'est... Ça fait vraiment penser à un enfant qui pleure, qui crie. Ou c'est peut-être un animal.
Oui, ah oui, non, oui, oui. C'est à s'y méprendre. Moi, je ferai gaffe à la place des restaurateurs. Hein. Avec le chef Etchebest, le petit, il peut finir en plat du jour, avec une pomme dans la bouche. Dans Cauchemar en cuisine, en général, il faut tout reprendre depuis le début. Donc, quand Philippe donne des conseils, il fait simple.
Vous avez déjà fait une quarantaine de couverts ou pas?
Non.
Bon, bah, il faut que tu te dises que c'est comme si t'en faisais 10, mais 4 fois plus.
Odile. Le compte est bon.
Ouais, là, ça reste vraiment au fond de la classe. Hein. Et enfin, le grand soir, le jour de réouverture du resto. Petit problème parmi les clients, une personne n'a pas touché son assiette.
Alors moi je suis végétarienne.
Une dame qui était servie à une table qui n'a pas osé te le dire, elle est 100% végétarienne.
Après, comme j'aime, voici le nouveau régime qui marche, la végétarienne timide. C'est super efficace. Tu vas dans un resto, tu manges rien, c'est encore mieux qu'un ténia. Allez, à demain.
Alors on termine là-dessus, on termine sur le ténia.
Je pense que c'est une bonne base pour commencer la semaine.
Bien sûr, merci beaucoup Jean-Luc Lemoine. Qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur Europe1.fr.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous allons parler ensemble du tout nouveau numéro de l'Histoire au scalpel présenté par Philippe Charlier, consacré ce numéro à Napoléon. À tout de suite sur Europe 1 dans Culture Média.
Culture Média.
9h30, 11h sur Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? La réponse, demain dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les 3 brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Les élections européennes auront lieu le 9 juin ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Il n'y a qu'un seul tour. Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 3 mai inclus pour le faire en mairie et jusqu'au 1er mai pour le faire en ligne. Vous pouvez aussi donner procuration à un autre électeur. Plus d'infos sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas.
Oui, je reçois ce matin Philippe Charlier. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue et vous menez des enquêtes historiques passionnantes pour France 5 où vous tentez de faire parler les morts. Ça s'appelle l'histoire au scalpel. Et alors là, ce jeudi, vous allez ouvrir un tout petit dossier. Vous vous intéressez à la mort de l'empereur Napoléon Bonaparte. Vous pensez vraiment, avant de commencer, qu'il y avait encore des choses à découvrir?
Oui, il y a pas mal de choses parce qu'au-delà de la mort de l'empereur Napoléon, sur l'île de Sainte-Hélène, il y a aussi toutes les conditions de sa vie, de son existence, quasiment 6 ans là-bas sur cette île perdue dans l'Atlantique Sud, et puis également des masques mortuaires, également des objets de sa vie quotidienne, et puis son visage aussi. On ignorait jusqu'à ce documentaire et cette étude scientifique quel était le véritable visage de l'empereur. Quand on regarde des peintures, des sculptures, des dessins, des gravures, il n'a quasiment pas le même visage. On le reconnaît, il y a un truc, mais c'est pas le même visage exactement. Et donc on a voulu retourner à la source et donner le premier portrait, la première photographie, en l'occurrence le premier film du vrai visage de Napoléon.
Et c'est ce qu'on voit à la fin, effectivement, et ce sont des images qui sont très impressionnantes. Et alors, le seul petit problème pour un médecin légiste comme vous, Philippe Charlier, c'est que le corps de Napoléon qui repose aux Invalides, il est vraiment totalement inaccessible. On ne pourra jamais y accéder, a priori.
Oui, pour des raisons architecturales et patrimoniales, on ne peut pas y accéder. Ce n'est pas une omerta de la part du ministère de la Défense ou des Armées. C'est que le corps est au centre du monument des Invalides, dans une sorte d'amoncellement de poupées gigognes de cercueils qui sont tous fusionnés les uns aux autres par du mortier et du béton. Donc c'est un monument qui a été construit dès le départ pour ne pas pouvoir être profané. Mais rassurez-vous, quand on est médecin, et honnêtement ma spécialité dépasse le simple cadre de la médecine légale, quand on est médecin, on peut utiliser des cheveux, des morceaux de peau, des masques mortuaires, des descriptions de procès-verbaux d'autopsie, d'exhumation, d'embaumement. Voilà, on a énormément de choses à se mettre sous la dent, si je peux dire. Plus l'archéologie, fouiller les latrines sur l'île de Sainte-Hélène de Napoléon, fouiller dans ses poubelles, aller investiguer sur tout ce qu'on a pu trouver qui a été touché, mangé, approché par lui, que ce soit des bonbons à la réglisse, les feuilles de thé qu'il buvait ou de café, les bouteilles de vin de Constance qu'il faisait venir d'Afrique du Sud, les petits pots de crème dont il se tartinait, et même on est allé jusqu'à gratter ses chaussures et sa baignoire sur l'île de Sainte-Hélène. Donc on l'a reconstitué, si on peut dire, sans avoir le cadavre stricto sensu.
Parce que vous êtes vraiment donc allé à Sainte-Hélène, hein, c'est pas un voyage très simple, hein, il faut le dire.
Ah oui, non, c'est pas au bout du RER. Ah non,
voilà, c'est ça, faut passer par Afrique du Sud, et puis bon, maintenant il y a un petit aéroport sur place.
Il y a un petit aéroport, le voyage est moins long, mais c'est Paris-Johannesburg, une nuit à Johannesburg, ensuite un vol jusqu'au Botswana, on fait une pause technique pour prendre de l'essence, pour pouvoir tourner plusieurs fois, parce que si jamais on n'arrive pas à se poser sur Sainte-Hélène, il faut aller sur une autre île.
Il y a énormément de vent là-bas.
Voilà, il y a beaucoup de vent, on fait que 2 tentatives d'atterrissage, et au bout de 2 infructueuses, on va sur une autre île qui est Asuncion, et on attend 1 semaine pour repartir.
C'est incroyable. Et donc vous avez fini par pouvoir vous poser là-bas et visiter donc sa maison de Longwood, enfin vraiment la visiter complètement, puisque vous avez fait donc des fouilles archéologiques sur place. Il n'y avait jamais eu de fouilles réalisées là-bas?
Non, il n'y avait jamais eu de fouilles, il y avait eu des restaurations ponctuelles. La maison est maintenant dans un très bon état. Et grâce à une convention qu'on a signée avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, eh bien, on a pu faire des fouilles archéologiques, à la fois dans Longwood, réouvrir également le tombeau de l'empereur dans la vallée des Géraniums, et donc l'investiguer, voir des graffitis qui ont été laissés dedans, etc. Et puis, travailler également au Briars, qui est la première propriété dans laquelle il a séjourné quand il est descendu du bateau, avant que Longwood ne soit terminé.
Et c'est vrai que c'est assez surprenant de vous voir frotter avec un simple coton-tige comme ça, le fond de la baignoire de Napoléon, en espérant retrouver encore quelque chose 200 ans après. Mais le pire, c'est que ça marche, hein, les analyses donnent des choses intéressantes.
Oui, les analyses donnent des choses intéressantes. Alors, on montre aussi dans ce documentaire quelques résultats négatifs. On ne trouve pas tout le temps, bien évidemment. C'est un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais malgré tout, on progresse. Et oui, la baignoire nous a permis de mieux savoir quel était l'état de santé de cet individu, mais également avec quel traitement il essayait de guérir la maladie de peau qu'il avait attrapée probablement quand il a fait l'expédition d'Égypte ou pendant le siège de Toulon et qu'il a gardé malheureusement pendant une grande partie de sa vie. À chaque fois, en fait, on utilise toutes les techniques de la médecine. C'est pour ça qu'au-delà de la médecine légale, c'est vraiment une sorte de santé publique, si on peut dire, qu'on applique à ces restes-là pour déterminer l'état de santé de cet individu, mais aussi de la petite population, la petite cour qui était autour de lui à Longwood, la famille Bertrand, le cheikh enfin pas le Cheikh Ali, le Mamelouk Ali, etc. Donc tous les gens
qui étaient... Parce qu'il avait recréé vraiment une cour autour de lui. Avec...
Oui, il n'aimait pas être seul. Alors il avait des moments où il aimait être seul, mais il aimait en tout cas continuer à rayonner, à être le
Alors
centre des attentions.
Alors qu'il était dans des conditions très spartiates.
Alors Longwood, honnêtement, maintenant ça se visite, c'est assez sympa, mais à l'époque c'était humide comme c'est pas possible. Il y avait les rats qui couraient sous le palier, plus ou moins bouffés par les termites. Il y avait les draps au niveau du mur qui étaient infestés par la vermine et par l'humidité. Et puis surtout, tout, c'était le bout du monde. Pendant un certain temps, il a cru qu'il pouvait revenir et organiser son retour, la récupération de son trône et une position stratégique au sein de l'Europe. Et puis très vite, il a sombré dans une dépression, puis une mélancolie. On ne vous donnera pas la fin et la chute de cette enquête scientifique et du documentaire, mais tout conspirait malheureusement à ce qu'il ne revienne pas vivant de Sainte-Hélène.
Et ce qui est très impressionnant, c'est comme vous arrivez avec les experts à faire parler un micro fragment du papier peint de la chambre de Napoléon, ou une toute petite tache sur une chemise de l'empereur. Après, vous le disiez, il y a parfois des déceptions, comme les bandelettes de l'autopsie de Napoléon, auxquelles vous arrivez à avoir accès, mais qui ne donnent pas grand-chose. Mais c'est vraiment passionnant de suivre votre enquête. C'est en fait une nouvelle manière surtout de raconter l'histoire, en la croisant avec une enquête scientifique. C'est ça ce que vous avez voulu faire, c'est rendre aussi l'histoire accessible à tous, et puis s'inspirer un peu de cette mode autour des thrillers, des enquêtes, qui foisonne à la télévision aujourd'hui.
Oui, totalement. C'est vraiment les sciences biomédicales au service de l'histoire. Chacun de ces différents épisodes de l'histoire au scalpel et chacune de ces études scientifiques, qui fait l'objet d'ailleurs de publications scientifiques, c'est une façon de revisiter main dans la main avec les historiens et avec les historiens de l'art toujours, ou les archéologues, des cold cases, comme vous l'avez dit, ou des problèmes historiques. Vérifier d'abord si l'histoire nous dit la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des erreurs de transcription, il y a un récit mythologique qui s'installe au fur et à mesure. Et puis également, approcher, si on peut dire, d'une façon extrêmement réaliste ces personnages historiques. On a maintenant le véritable visage de Napoléon Ier. On est en train de travailler en ce moment à la reconstitution de la voix de Henri IV à partir de sa tête momifiée. On arrive à lui faire dire des premiers phonèmes. On modélise son larynx en trois dimensions. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que cet ensemble de cas, je porte le projet de création d'un musée dans l'Ouest parisien qui va synthétiser et mettre pas côte à côte, chacun de ces personnages historiques dans une sorte de grande galerie qui sera une sorte d'institut des sciences au service de l'histoire.
Eh bien, regardez l'histoire au scalpel, Napoléon à Sainte-Hélène. Le dernier acte est diffusé jeudi sur France 5 à 21h10. Restez avec nous, Philippe Charlier, pour suivre l'actualité des médias.
Oui, parce que dans un instant arrive le journal des médias de Julien Pichenet. Alors, vous savez que Jarry va quitter cet été la présentation de Tout le monde veut prendre sa place. On vous l'a annoncé ici sur Europe 1. Eh bien, on connaît depuis ce week-end le nom de son successeur. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous ce soir de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous ce soir de 19h à 21h sur Europe 1.
On en parle.
L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec le professeur Thibaut Damy, cardiologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil où nous sommes. Bonjour.
Bonjour.
Alors professeur, qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque ?
L'insuffisance cardiaque, c'est une maladie où le cœur est fatigué et il ne peut plus pomper le sang qui est nécessaire au fonctionnement de tous les organes du corps humain.
Alors quels sont les signes d'alerte de cette maladie ?
Les 4 principaux signes d'alerte sont l'essoufflement, pour les efforts de la vie quotidienne, la prise de poids inexpliquée, les œdèmes qui sont liés généralement à des gonflements des pieds, des jambes ou du ventre, et la fatigue, là encore, lors des efforts quotidiens de la vie.
Que faire alors si l'on constate l'un de ces 4 signes ?
Il faut consulter son médecin généraliste très rapidement pour qu'il puisse faire le diagnostic, agir et éviter la progression de la maladie.
Merci professeur.
On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr.
Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas, le médecin légiste Philippe Charlier. C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Et avec les audiences, tout d'abord, quels sont les chiffres marquants du week-end, Julien?
Eh bien, commençons par le match des films du dimanche soir. C'est France 2 qui s'est imposé. J'adore ce que vous faites avec Artus et Gérard Lanvin qui a attiré 3 500 000 téléspectateurs. Les Animaux Fantastiques sur TF1 étaient à 500 000 derrière avec 3 millions. Samedi sur TF1, les Cross Battles de The Voice ont été suivis par 3 200 000 téléspectateurs. Danse avec les stars a fini vendredi sa 13e saison. Autour de son score habituel, on était à 3 100 pour la finale. Bon, globalement, le programme a enregistré une moyenne d'audience supérieure à 3 millions sur l'ensemble de cette saison. C'est une moyenne supérieure à celle qui avait été enregistrée lors de la 12e saison fin 2022. Hein, c'était 2,6 millions. Côté part de marché, Dals est également en hausse cette année. Et puis la grande semaine d'Ophélie Meunier était en hausse samedi sur M6. On est monté à 610 000 téléspectateurs avant-hier, soit le meilleur score du talk show depuis son lancement il y a 3 semaines.
Europe 1, le journal des médias.
Et puis avant de dérouler les infos principales de ce week-end, revenons justement sur la finale de Danse avec les stars.
Et plus précisément sur ce discours qui n'est pas passé inaperçu. Vendredi soir, 22h25, Inès Reg et son partenaire Christophe Licata sont éliminés de la compétition au port de la finale. Ils terminent 3e. L'animateur Camille Combal demande alors à Inès Reg ce qu'elle ressent. À cet instant précis, il y a une étrange coupure très visible à l'antenne. La production a évoqué un bug technique, mais le journal Le Parisien, lui, croit savoir qu'Inès Reg aurait à ce moment-là repoussé Caroline Margeridon qui venait saluer son partenaire. Alors, la production aurait préféré couper cette scène. Après cette étrange coupure, il y a eu ce discours dans lequel Inès Reg a visiblement voulu régler quelques comptes.
J'ai vraiment énormément adoré cette aventure et j'ai aussi beaucoup souffert. Et on a fait de moi ce qu'on a appelé un produit TF1 et on a dit que oui, t'inquiète, c'est sûr, elle a gagné. Je suis officiellement pas un produit TF1. Et les gars, j'ai pas triché. J'ai perdu la tête haute.
Je ne suis officiellement pas un produit TF1, phrase assez étrange, que il serait que l'on retrouvera tout de même, produit ou pas, à partir de vendredi dans Masked Singer. Elle tournera aussi début juin un téléfilm pour la première chaîne. Toujours selon Le Parisien, Inès Reg serait pas allée féliciter la vainqueur, Natacha Saint-Pierre, à l'issue de la soirée. Bon, on va pas revenir sur la brouille qui est lors de cette saison. Elle était en rage, elle ne voulait parler à personne et personne ne voulait la voir, a indiqué un témoin cité par Le Parisien.
Et puis toujours concernant Danse avec les stars, l'humoriste Artus s'en prend à ce programme.
Oui, c'était ce week-end, Artus qui avait participé à la saison 7, il avait été demi-finaliste. C'était particulier. Heureusement, j'ai rencontré ma femme, donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là, parce que j'ai vécu un truc avec elle qui était fou. Après, non, l'émission en elle-même, c'était pas mon univers, dit Artus. On te fait comprendre que t'as signé un contrat et que tu vas fermer ta gueule. Je le cite, c'est pas la plus belle expérience de télé que j'ai eue, on va dire.
Bon, dites donc, que de polémiques autour de Dals. Et puis, on connaît désormais le successeur de Jarry, c'est Cyril Ferraud qui présentera Tout le monde veut prendre sa place à la rentrée.
Oui, oui, tout qu'on fait, c'est un choix 100% logique, l'animateur.
Ah, bien joué.
Étant devenu au fil des années l'une des principales figures des jeux sur France Télévisions, Cyril Ferraud assure qu'il ne s'attendait pas à ce que la direction de France Télé lui propose de prendre la place de Jarry, qui va quitter donc cet été, après seulement une saison, la présentation de ce jeu qui fait en moyenne 1 700 000 téléspectateurs chaque jour à l'heure du déjeuner. Bon, Cyril Ferraud dit avoir accepté après 48 heures de réflexion. C'était pas forcément un choix évident parce qu'il va quitter Slam, qu'il animait depuis 16 ans. Alors, qui va le remplacer à la présentation de Slam? Dans Le Parisien, Cyril Ferraud se pose la question, pourquoi pas un couple pour me remplacer? C'est ce qui se fait dans certaines versions étrangères du jeu. Bon, Cyril Ferraud continuera en revanche d'animer 100% logique The Floor, La Carte au Trésor ou Le Grand Concours des Régions. Je ne sais pas si j'ai tout cité.
Il va être bien occupé, Cyril Ferraud, l'année prochaine. Et puis Christophe de Chavannes, lui, s'en prend à cette rumeur selon laquelle il arrêterait Quelle Époque à l'issue de la saison.
Ouais, la semaine dernière, Télé Loisirs avançait Christophe de Chavannes, présent tous les samedis soirs sur France 2, sur le plateau de Quelle Époque aux côtés de Léa Salamé, était loin de voir son contrat renouvelé à la rentrée. Télé Loisirs ajoutant même que De Chavannes était ingérable en coulisses et qu'il agacerait les équipes de France Télévisions. Le principal intéressé a réagi ce week-end sur son compte X en écrivant ceci. Venez voir et observer, serait-ce qu'une fois, l'ambiance qui règne à Quelle Époque, ça éviterait les ragots et les propos qui ne reflètent pas la réalité. Fin de citation.
Vous n'avez pas toutes ces histoires, vous, Philippe Charlier, à France 5. Vous êtes tranquille, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de...
Ah non, c'est une ambiance sereine et une ambiance de travail. Et puis voilà. En plus, nous, on travaille surtout sur le terrain, donc au bout du monde à Sainte-Hélène, comment voulez-vous qu'on s'engueule?
Oui, c'est ça.
Il y a moins de risques, effectivement. Et puis, à moins de 2 semaines de l'Eurovision, le chanteur Slimane explique à Télé 7 Jours pourquoi il a souhaité concourir avec cette chanson, Mon Amour.
Oui, dans un entretien accordé à Télé 7 Jours, Slimane, qui fait la couverture de Télé 7 Jours cette semaine et qui représentera les couleurs de la France le 11 mai à Malmö, a indiqué que c'est lui qui a choisi de participer au concours avec cette chanson, qui est déjà certifiée single d'or. Il pense pouvoir sortir du lot, en fait, et fédérer le public avec une balade romantique. Je sais que dans plusieurs années, dit-il, ce n'est pas une chanson qui sera passée de mode, dans mon cœur en tout cas. Je pourrais la réécouter et me dire, je suis fier de moi. Bon, je rappelle quand même, ça fait 47 ans cette année que la France ne s'est pas imposée à l'Eurovision. La dernière fois, c'était en 77 avec Marie-Myriam, on le répète tous les ans.
Mais c'était une balade.
Oui.
Donc, c'était une balade.
Comme un enfant aux yeux de lumière.
Merci beaucoup, Anissa. Est-ce que vous regardez
un c'était bien. Moi, j'aimais bien.
Merci, Philippe Charlier.
Oui, au moins. Est-ce que vous regardez un peu le foot, Philippe Charlier, ou pas?
Alors hier soir, j'ai suivi avec un de mes fils, avec Paul, on a suivi la finale, enfin en tout cas la victoire du PSG hier soir, grâce à Lyon.
Exactement, et parce que alors sur Canal+, il est désormais possible de regarder le foot anglais, mais sans les commentaires.
Oui, bientôt peut-être le foot français, on verra. Vous savez qu'en ce moment, Canal+, recrute de nouveaux talents du commentaire avec son émission Au Micro. Mais d'un autre côté, le groupe propose aussi depuis ce week-end de suivre les matchs du championnat anglais sans commentaires sur les chaînes Canal+, et MyCanal. Vous pouvez choisir avec ou sans commentaires. Qu'en pensent les passionnés de foot? Est-ce qu'ils préfèrent avec ou sans? J'ai posé la question à des amateurs de foot, vous allez voir que les avis sont très partagés.
Souvent les commentateurs perturbent peut-être un peu l'ambiance du stade, et en tant que grand amoureux de foot, l'ambiance d'un stade, c'est aussi quelque chose qui rajoute quelque chose au match, et avoir cette ambiance-là comme si on y était, pour moi c'est positif.
Pour moi ça permet de vivre le moment et ce que vivent les joueurs aussi avec les bruits d'ambiance, le public, la pression, sans forcément avoir à se déplacer dans le stade.
Je préfère regarder avec commentaire, ça rajoute forcément quelque chose dans le match. Je dois dire qu'il y a certains commentaires qui nous restent dans la tête, qui font qu'on se rappelle de ces matchs-là, justement à cause du commentateur.
La voix des commentateurs, elle montre vraiment l'effervescence qu'il y a dans le stade. Hein. On se souvient des fameux mots pour Zidane, 98. Il peut y avoir des expressions un petit peu légendaires, donc c'est dommage de les entendre.
Bien sûr. Je pourrais pas.
Si les commentaires n'existaient pas, on n'aurait pas entendu Thierry Roland dire après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Oui,
en 98,
mais on peut.
Non, c'est à Thierry Gélardi qui disait pas ça, Zizou, parce que pas maintenant, pas après tout ce que tu
2006,
as fait.
En 2006, évidemment. C'est à vous de voir, ou plutôt c'est à vous de décider si vous ne voulez pas les entendre. On verra si ça marche ou pas, et si ça se propage, si ça s'étend à d'autres championnats.
Nous, on souhaite continuer à vous entendre chaque matin dans Culture Média. Julien, merci beaucoup pour ce journal des médias, dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci aussi à Philippe Charlier.
Merci à vous.
D'être venu nous voir ce matin. L'histoire au scalpel, Napoléon à Sainte-Hélène. Ce sera diffusé donc jeudi sur France 5 à 21h10. Merci d'être venu.
Et Culture Média, Thomas, continue après les infos de 10h.
Oui, on a beaucoup de chance puisqu'on sera avec la grande Nicoletta, et puis le groupe Bon Entendeur va nous rejoindre également.
Et puis tous les soirs, vous le savez, vous pouvez prendre la parole sur Europe 1 et participer à la libre antenne juste après le journal de 22h et jusqu'à 1h du matin, du lundi au jeudi avec Olivier Delacroix et du vendredi au dimanche avec Valérie Darmon. Pour participer à la libre antenne, vous pouvez vous inscrire dès maintenant 01 80 20 39 21. A tout de suite.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Amazon offre jusqu'à 8000 euros pour la formation professionnelle. Grâce à cela, Daniel a suivi une formation de développeur logiciel. Maintenant, il considère le son de son clavier comme la plus belle musique qui soit. En 2 ans, il est passé de préparateur de commandes au métier de ses rêves. Et même son fils trouve qu'il se débrouille pas si mal en codage. Ce qui n'est pas peu dire de la part d'un adolescent. Chez Amazon, nous sommes engagés envers la formation et l'évolution des carrières, sous condition d'éligibilité.
Hé, hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
On sort ce soir? On pourrait aller au ciné? Ou aller voir une expo? Ou un concert? Ça fait des années qu'on n'en a pas fait. Bon, tu m'écoutes là?
Hein?
Pardon, tu disais ? Excuse-moi, j'étais plongée dans une enquête sur le business des grands chefs cuisiniers. C'est incroyable !
Capital, jamais l'économie n'a été aussi captivante. Capital, premier magazine économique vendu en France. Disponible chez tous les marchands de journaux. Hé, hey, tu me le prêtes ?
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et des tandem.